Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Blooming You, le podcast qui vous propose toutes les connaissances utiles à une vie bonne et heureuse. Nous avons une ambition, celle de vous inspirer, vous aider à mieux vous connaître et surtout vous faire du bien. Notre parti pris est de partager avec vous des savoirs ayant un impact positif sur l'homme et le vivant. Je suis Amal Dadol, votre hôte, et j'espère que ce contenu fera sens pour vous. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers de l'art-thérapie à la rencontre de l'art-thérapeute Céline Abikalil. Le pouvoir thérapeutique de l'art est évoqué depuis la nuit des temps. Au début du XXe siècle, des psychiatres étudient les productions des personnes internées dans les hôpitaux psychiatriques. Ils en dégagent une catégorie qu'ils nomment art psychopathologique. On peut aussi évoquer Freud et son enseignement sur la symbolisation, qui sert de socle au développement de l'art-thérapie. Dans ce podcast, Céline nous parle de son parcours, de son métier et de son expérience d'art-thérapeute. Bonjour Céline.
Bonjour Amal.
Céline, tu es art-thérapeute depuis 6 ans, tu étais comptable avant. Comment s'est passée la transition entre ces deux métiers ?
C'est un chemin. L'expérience de maman avec des enfants ou des enfants qui allaient bien, mais qui à l'école ne collaient pas bien au programme. Et puis, au bout d'un moment, l'expérience professionnelle qui on en a fait le tour, ça ne tient plus et on a envie de changer. C'est-à-dire que ça n'avait plus de sens pour moi, ce que je faisais.
Céline, peux-tu décrire ce que tu faisais avant ?
Alors, j'étais responsable administrative financière. J'ai travaillé dans des structures, j'ai travaillé de façon indépendante où j'essayais pour justement continuer à égayer un peu mon quotidien entre la compta et les soucis administratifs des entreprises que je visitais. En ayant plusieurs structures à gérer, j'y allais de façon ponctuelle. Ça me permettait de donner un nouveau souffle aussi à ce métier qui n'est pas très drôle, je trouve. Et puis, au bout du compte, finir par dire « non, c'est plus ça, ça ne tient plus, ça ne me convient plus. Il y a d'autres choses qui m'intéressent. » Et j'étais toujours sensible à tout ce qui était autour de la psychanalyse, la psychologie, etc. Et donc, j'ai entrepris une psychanalyse. Et puis, cette psychanalyse m'a emmenée sur un chemin bien compliqué et à la fois qui m'a permis de grandir et de comprendre où j'allais bien en fait et de quitter finalement mon travail pour me faire comprendre que c'était plus dans la sculpture qui était un loisir initialement et qui est devenu finalement mon activité principale. Et l'idée de comprendre aussi ce qui se passait dans la sculpture, parce que il se passait aussi des choses, c'était pas si simple. Et finalement, j'étais pas forcément heureuse d'exposer, j'étais pas forcément heureuse de vendre, mais j'étais plutôt bien quand j'étais dans le processus de création. Et c'est quoi le processus de création ? C'était ça ma question, ma quête, et je voulais comprendre qu'est-ce qui se passait à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, eh bien, tout allait bien, tout était positif, tout s'enchaînait, tout allait bien, et là, je me suis dit, mais comment je pourrais faire pour justement que ça devienne mon métier ? Mais comment être professeur d'art plastique ? Non, c'était pas ça du tout. Psychologue, j'avais pas tellement envie finalement d'être dans ce côté-là et je voulais vraiment travailler avec transmettre ce que j'avais vécu et pouvoir le accompagner d'autres justement dans ce moment-là. Et puis, je suis un peu autodidacte parce qu'au niveau sculpture, j'ai appris un peu, un petit peu dans différentes structures, mais je n'ai pas fait les beaux-arts, j'ai pas, Donc, j'ai aucune prétention à transmettre une technique ou quoi que ce soit. Je voulais étudier justement ce point-là, ce point charnière. Et j'ai cherché des formations, j'ai trouvé une école qui était orientée justement par la psychanalyse. Et alors là, ça a été voilà, une révélation pour moi, puisque ça a été la connexion entre une passion, la psychanalyse, et en même temps comprendre ce qui se passait dans ce processus de création, et il se passait bien des choses. Alors, cette formation, elle est sur 2 ans, et elle m'a, en fait, alors on peut la faire entre 1 an et 3 ans, ça dépend. Et c'est une formation justement qui aussi t'emmène aussi dans un travail personnel, parce qu'avant de pouvoir prétendre accompagner d'autres, il faut bien aussi se travailler soi-même. Donc c'était pas si simple parce que ça vient remuer des choses, ça vient travailler des choses. Et par contre, c'était vraiment dans ce que j'avais compris, dans ce qui était charnière, pivot dans l'élaboration. Et du coup, ce travail, en tout cas cette formation, m'a emmenée justement à être art thérapeute. Et c'est-à-dire une nouvelle façon d'accompagner les gens vers une forme de mieux-être, si je peux dire, parce que c'est pas une activité où je vais faire dessiner les gens ou peindre ou sculpter, parce que ça emmène vers quelque chose qui est plus de l'ordre du bien-être. On est en train de créer quelque chose, on est dans le souci de l'esthétique, on est dans le beau, dans le bien. Alors que l'art-thérapie contemporaine, comme elle m'a été enseignée dans mon école, que je suis prof-fac, elle est plus orientée sur quelque chose d'éphémère, un bricolage qui emmène la personne justement pour se dire, vers un lâcher-prise et permettre de finalement lui laisser la place de pouvoir se dire avec ses mots à l'abri de tout jugement et surtout de tout objectif d'esthétique ou quoi que ce soit. On fait avec les moyens du bord. Et c'est un peu ça la vie finalement, c'est faire avec les moyens du bord. Parfois, voilà, eh bien, il y a ton passé, il y a ce que tu vis et puis ce que tu en fais. Ce que tu en fais en séance avec ce bricolage, mais qui va aussi se jouer dans l'après-coup. C'est-à-dire qu'il y a un travail dans ce processus de création qui va se déclencher souvent en séance et qui va continuer et va perdurer ensuite, qui va permettre à la personne de pouvoir devenir finalement un peu l'auteur de ses mots, MOTS, et puis l'auteur des mots, MOUX. C'est souvent le cas. On se retrouve dans des situations qui sont un peu, voilà, parfois où la parole ne vient plus alléger les situations, mais au contraire enliser. Donc, du coup, je trouve que cette période d'art-thérapie qui peut être très bien complémentaire avec la psychologie, justement, parce que dans des institutions, souvent, les enfants peuvent être accompagnés à la fois avec des psychologues et des psychiatres et en même temps avec des art-thérapeutes pour compléter un travail et une élaboration ensemble et vers un mieux-être.
Alors, comment se passe une séance? Si j'ai bien compris, tu travailles plutôt avec les enfants, mais l'art-thérapie s'adresse à tous.
À tous, tout à fait, à un moment de vie, il n'y a pas de règles. Je pense que à chaque étape de la vie, on rencontre différentes sources de souffrance. Et on peut être enfant, adulte, adolescent, handicapé, personnes âgées. Voilà, on a tous des moments où ça va plus, on n'y arrive plus. Et parfois, on n'arrive pas à les dire. Et quand on est en séance, déjà, il y a une première rencontre. Où la personne vient aborder les choses qui vont pas bien pour elle.
Comment on arrive à se dire, tiens, je vais faire une séance d'art-thérapie? Comment on arrive jusqu'à toi, Céline?
Ça peut être proposé par voilà, un médecin généraliste, un pédiatre. Ça peut, après, il y a le bouche à oreille aussi, puisque les gens qui me connaissent savent comment ça se passe. Et puis aussi par le biais des institutions avec lesquelles j'ai travaillé, avec différents thérapeutes, avec des psychologues qui peuvent aussi parfois voilà, diriger vers plutôt quelques séances d'art-thérapie avant d'entamer peut-être une psychothérapie qui parfois peut faire peur aussi à certains parents, à certains enfants. Donc, voilà, c'est
oui, ça parce peut... que c'est un art qui est quand même méconnu. Enfin,
tout à fait, pas encore, oui, tout à fait. C'est très peu... Alors, ça, c'est beaucoup dans les structures, on va dire. Il y a beaucoup de structures qui commencent à travailler avec l'art-thérapie. J'ai été, moi, en tout cas, plus amenée à travailler voilà, dans des institutions avec des enfants avec, qui présentaient des troubles autistiques ou des troubles psychotiques. Ça, voilà, c'est personnel. Et puis, j'aime beaucoup travailler avec ces enfants. Mais sinon, effectivement, libéral, donc je reprends, c'était donc c'est une rencontre. D'échange, je suis à l'écoute justement de ce qui ne va pas pour et mon objectif c'est de mettre en place justement dans les séances suivantes un dispositif, c'est-à-dire mettre en place une séance où la personne va pouvoir élaborer, bricoler quelque chose. Ce bricolage il est accompagné souvent d'une invitation poétique et qui va permettre à la personne de partir sur un chemin où justement elle va pouvoir, à partir de non-sens, d'éléments qui sont présentés à elle, une élaboration. Qui va ouvrir justement à quelque chose d'autre ailleurs, non perceptible par personne, à l'abri de tout jugement, puisque je ne sais pas ce qui se passe pour l'autre. Et c'est justement, c'est pouvoir laisser la place à cette personne pour se dire à l'abri de tout jugement, à l'abri de tout souci technique ou esthétique. On n'a pas besoin de savoir dessiner pour venir me voir et pour aller mieux.
D'accord. Voilà. Alors, quel résultat tu obtiens ? Combien de temps dure une thérapie en art-thérapie ? Pour quel résultat ?
Alors, le résultat, je ne suis pas dans un souci de résultat, je suis dans un souci d'accompagnement. Le résultat ou la guérison, elle appartient au patient et pas à moi. Moi, je mets en œuvre des choses pour lui faciliter le chemin et je lui mets en place des éléments pour qu'il puisse se dire avec ses mots, avec sa singularité. Et je n'ai pas de méthode qui est duplicable pour tous. C'est à chaque fois une rencontre, à chaque fois une nouvelle histoire. Et pour chacun, il s'en dira quelque chose de différent. Et dont je n'ai pas ni la clé, ni le pouvoir de prétendre à une guérison. J'ai souvent... c'est assez rapide. En libéral, en tout cas, c'est très rapide avec les enfants que j'ai eus. Il n'y a pas de règles. Ils décident de revenir ou de ne pas revenir. C'est un choix et c'est eux qui choisissent.
Mais quand tu dis c'est rapide, qu'est-ce qui est rapide ?
En fait, en général, au bout de quelques séances, en fait, ils te disent qu'ils vont mieux. Qu'ils n'ont plus envie, que ça va, qu'ils gèrent. Après, c'est très différent en institution, puisqu'on a un travail qui est vraiment différent, qui est plus sur de l'accompagnement à long terme, où on est plus avec des enfants qui ont besoin, quotidiennement de cette petite soupape. J'appelle ça un peu comme une soupape en institution. C'est un moment, un temps à eux qui leur appartient. C'est différent dans l'institution. Voilà.
Pardon Céline, c'est un temps de création que leur offre.
C'est un temps qu'on leur offre, oui, et c'est en fait qu'ils, c'est pas je leur offre, mais qu'ils se donnent. Et du coup, c'est je dirais que c'est un processus artistique qui leur permet d'aller vers leur intérieur et un moment de lâcher prise. Et c'est plus le mental qui est maître, mais il est mis de côté. Donc vraiment, c'est pour ça que je parle que. Sorte d'élaboration, c'est un rendez-vous avec soi-même. Et personne d'autre est là. Personne d'autre peut interférer dans ce moment-là.
Quand tu dis que personne d'autre est là, c'est physiquement aussi, c'est-à-dire que matériellement, comment ça se passe, la séance ?
Oui, dans la séance, moi, j'ai aussi un devoir d'une posture, on va dire, qui est plus orientée par la psychanalyse, c'est-à-dire que je vais essayer de laisser la place à l'autre pour qu'il puisse se dire. C'est un travail, c'est pas si simple que ça. Souvent, c'est facile à dire. Et puis, au début de ma formation, c'était c'est simple, en fait, de laisser de la place à l'autre. Mais c'est pas si simple que ça, de laisser de la place à l'autre. Surtout pour lui laisser de la place pour s'inventer, se créer autre chose. Donc voilà, c'est ce travail-là qui est mis en avant dans les séances où je me soustrais un petit peu à leur laisser cette place pour qu'ils puissent faire leur chemin.
Combien de temps dure une séance ?
C'est très variable. Il y a des personnes pour qui ça peut durer, ça peut être très court, 30 minutes. Pour d'autres, on peut passer une heure facilement. Et puis, il y a des personnes après séance qui n'ont absolument pas du tout envie de partager quoi que ce soit ou dire quelque chose. Moi, je ne suis pas là pour les solliciter, justement. Après, ils peuvent se dire s'ils veulent, mais ce n'est pas du tout une attente de la séance. Ils peuvent avoir un moment, un temps de pause où ils vont se reposer un quart d'heure, une demi-heure, ça dépend, et puis ils repartent. Donc chacun va réagir de façon différente. Il n'y a pas de façon de faire précise. Il y a des gens qui vont avoir besoin de raconter tout ce qui s'est passé, ce qui leur est, à quoi ça leur a fait penser, pourquoi. Et d'autres vont avoir besoin justement de silence et de paix et de pouvoir repartir. Et le travail continue, le processus s'est enclenché et ça permet justement de pouvoir continuer à se dire ailleurs, autrement.
Quel âge ont les enfants que tu accompagnes ?
Alors, en institution, j'ai eu des enfants assez jeunes, de 4 ans jusqu'à 18 ans en institution. Et en libéral, j'ai eu pas mal d'enfants entre 11 et 14, 15 ans.
D'accord. Et quelle relation entretiens-tu avec les parents qui sont prescripteurs, enfin en tout cas.
Écoute, il y a toujours, comme je disais, la rencontre. La rencontre, au début, elle se fait aussi avec les parents, surtout même. Et puis après, une rencontre avec l'enfant seul. Et puis, on décide de se mettre au travail. Et j'explique comment ça se passe, l'art-thérapie, comment on va se rencontrer, on va pouvoir travailler. L'enfant a le droit de dire non à un moment donné, de refuser une séance. Alors, il y a d'autres prescripteurs qui trouvent ça pas bien du tout parce que, si, c'est bien. Voilà. Il a pu dire non, je n'ai pas envie d'aller en séance aujourd'hui parce que Parce que ça va ou parce que ça va pas, mais j'ai pas envie. Et souvent, ça surprend quand j'accepte ce non, parce que, mais je trouve que c'est déjà le pouvoir de se dire. En institution, il arrive que des enfants qui, d'après l'institution, n'ont pas la, ne s'expriment pas, eh bien, il est très fréquent que parfois j'ai des enfants qui me disent non, 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 je ne veux pas, aujourd'hui, non. Et voilà, on est étonnés, ils arrivent à dire non. Et ça, je trouve que c'est pour moi le plus beau du travail qui est fait, c'est ça, c'est de pouvoir laisser la place à l'enfant de se dire. Alors là, c'est un exemple, mais il y a plein d'autres exemples que j'aurais, qui sont surprenants. Et je suis heureuse de faire ce métier parce que justement, de quand je vois un enfant qui prend la parole alors qu'il n'arrivait pas, eh bien, je me dis que voilà, c'est bien. Le processus de création a fait le job.
Eh bien, merci Céline. Est-ce que tu as un dernier mot sur ta pratique à partager avec à ceux qui nous écoutent?
Oui, je voudrais juste vraiment que les gens entendent que l'art-thérapie, ce n'est pas un atelier de dessin ou de peinture, qu'elle s'adresse à tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir un talent artistique et parfois on peut juste avoir un moment de vie où on n'est pas très bien, on ne sait pas pourquoi, on manque de confiance en soi, on n'arrive plus à s'exprimer, on se sent différent, on a du mal avec les relations sociales, avec des changements familiaux durs. Voilà. Et ces moments-là, en fait, en art-thérapie, on peut justement essayer de réfléchir et d'entrevoir peut-être une transformation de ces mots MAUX. Et j'ai une phrase que j'aime beaucoup, qui parle toute seule, je trouve, c'est quand les mots MAUX ne trouvent plus leurs mots, MOTS. Et eh bien parfois l'art thérapie peut peut-être donner un petit coup de main. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup Céline pour ton partage.
Merci à toi.
À bientôt.
À bientôt.
Eh bien, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que ce contenu vous a été utile. Si cela vous a plu, faites-le savoir. Je vous donne rendez-vous sur blooming.fr où vous retrouverez la retranscription écrite de cette interview avec toutes les références. De mon côté, je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt!